7h24, on va faire le point évidemment sur cette crise avec le directeur national de la santé publique du Québec, le docteur Horacio Arruda. Bonjour docteur Arruda.
Bonjour.
Docteur Arruda, avant de vous poser des questions, j'ai envie de dire au nom des auditeurs, des auditrices, merci beaucoup pour ce que vous faites et merci beaucoup aussi pour la façon dont vous le faites, avec rigueur mais aussi avec passion. Vous passez le message. C'est pas tout le monde qui le comprend, mais je pense que la majorité des gens l'ont saisi et savent, je pense, apprécier ce que vous faites. Puis je tenais à vous le dire au nom de mes auditeurs ce matin.
Et permettez-moi aussi, on parle beaucoup des anges gardiens du système de santé, de ceux qui travaillent dans la chaîne d'alimentation. Moi, je veux faire, remercier la population québécoise qui répond très bien puis qui écoute en majorité. Vous savez, une population, c'est faite de gens différents. Il y en a qui comprennent plus vite, d'autres un peu moins, d'autres qui sont contre l'autorité. Puis je voudrais féliciter mes pigeons voyageurs qui sont les médias. Vous savez, vous avez un rôle très, très important pour porter la voix du gouvernement, pour porter la voix des gens de santé publique, parce qu'on ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça pour une question de vie et de mort. Puis si vous me permettez, tout le monde me pose la question, ces tartelettes portugaises,
oui.
Quelle est ma recette? Je vais vous le dire, j'en ai pas de recette, je suis à la recherche de celle. J'ai commencé à en faire, j'en faisais pas il y a à peine 2 mois. J'en ai fait une, je l'ai trouvée bonne, mais pas nécessairement à ma bon goût. J'en ai fait une autre, fait que essayez-les, différentes recettes, les différents chiffres qu'ils m'ont donnés, puis vous me le direz laquelle est la bonne. Merci.
Vous n'avez pas une recette familiale ou ancestrale?
Non, pas du tout. Pas
okay.
du tout. Ça, moi, je suis né aux Açores. Mes parents sont portugais. C'est une recette qui vient, je vous dirais. Ils ont d'autres types de recettes, mais là, je vais arrêter de parler de recettes parce qu'il faut que je change. Il faut que j'aille chercher des gens. Il y en a qui ne cuisinent pas. Il faut que j'aille chercher des gens qui ont d'autres plaisirs. De la musique, de l'opéra, toutes sortes de choses, des raps, n'importe quoi pour les jeunes. Alors là, on va se revenir sur le coronavirus.
Ouais.
Et puis, je tiens à vous dire ce qui est important, c'est pas moi, c'est le message qui est porté par moi et mes équipes et la santé publique au complet et le gouvernement. On parlera de moi plus tard,
okay.
Mais là maintenant, je me concentre sur ma job.
Parfait, je vous pose des questions sérieuses maintenant, pour vrai. On sait qu'il y a un cas, c'est une femme de 82 ans, de Lavaltrie, qui habitait une résidence. C'est donc une résidence pour personnes âgées. On a vu les cas ailleurs, je pense à Vancouver, je pense à Seattle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le suivi de ces cas?
Écoutez, premièrement, là, je ne donne pas d'informations qui permettent d'identifier des gens.
Non, ça, je comprends.
À chaque fois qu'il y a un cas quelque part, là, je vais vous dire, là, on est dans une période qu'on appelle de recherche intensive de cas et de contacts et d'intervention pour empêcher la propagation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un cas, que ce soit dans une résidence pour personnes âgées, que ce soit n'importe où, il y a une histoire qui est faite autour de ce cas-là pour voir exactement qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle a commencé des symptômes ou un petit peu avant. Puis là, on contacte les personnes. Puis là, il faut comprendre, c'est pas parce que quelqu'un l'a vu en croisant que nécessairement il a attrapé de la maladie. En Chine, la majorité des contacts, c'est des gens qui ont eu des contacts rapprochés, ensemble, dans des maisons, etc. On fait attention à l'extérieur parce qu'il peut y avoir de la contamination, mais on fait une enquête intensive, puis on essaie de rejoindre le maximum de personnes. On leur demande de rester à la maison, les vrais contacts significatifs, puis on les surveille, puis on les appelle presque à tous les jours pour vérifier s'ils ont des symptômes ou pas. Et ils sont placés, comme on appelle, en isolement préventif. S'ils développent des symptômes, on les teste ou pas, tout dépendamment si le syndrome, puis on s'en occupe. On va continuer à s'occuper des patients qui vont tomber malades. Heureusement, la majorité vont bien aller, mais il y en a certains qui vont aller à l'hôpital.
OK, parce qu'on a vu dans les cas de la Colombie-Britannique, les cas de l'État de Washington, que les patients testés positifs et pour qui l'issue a été malheureusement fatale, ben ça s'est multiplié parce qu'on est dans un environnement de gens qui sont plus vulnérables dans le cas d'une résidence de personnes âgées.
Mais c'est d'ailleurs pour ça que Mme Blais et le gouvernement ont suivi nos recommandations, que comme ce sont une concentration importante de gens qui sont là, si on a quelqu'un, visiteur, qui est en train d'avoir un peu de symptômes, qui transmet à sa mère le transmet à un travailleur de la santé, ou ça se transmet un à l'autre, on a là des taux de mortalité plus élevés. Actuellement, ma connaissance, puis il faudrait que je fasse des vérifications plus précises, puis il faut faire attention à ce que je dis, parce que pour nous, vous savez, la confidentialité, ça demeure quelque chose de très, très important. Mais je pense que notre objectif aussi, il va peut-être y en avoir d'autres, des gens, puis aussi des fois, des gens meurent dans les CHSLD parce qu'ils sont très malades, malheureusement. Et ces personnes-là, des fois, peuvent mourir pendant qu'un cas à côté, mais ce n'est pas associé à la maladie. Il y a toujours un niveau de base. Mais ce qu'on veut éviter, c'est ce qu'on appelle une augmentation importante de gens qui décèdent, des personnes âgées, soit parce qu'ils sont en centre d'accueil, parce qu'ils sont surtout beaucoup plus malades. Mais c'est pour ça aussi qu'on dit aux personnes âgées de pas nécessairement de voir de visites avec, même si leurs enfants ont l'air en santé, là, ça va aller, c'est bon de s'isoler, mais ça ne veut pas dire ne pas aller prendre une marche tout seul. Ça, vous avez, faut juste comprendre qu'il faut éviter, c'est des contacts physiques à plus, je dirais, là, à moins d'un mètre, deux mètres, là. Et surtout si on a des symptômes, on se tient vraiment loin. Bon, et d'ailleurs, quelqu'un qui a des symptômes ne devrait pas aller visiter des gens qui sont vulnérables.
OK. On sait qu'il y a plus de tests qui vont être faits. On aura donc plus de résultats. Ce qui veut dire qu'en chiffre absolu, on va se retrouver avec un nombre plus élevé de cas déclarés, de cas confirmés. À ce moment-ci, Dr Arruda, on est à quelle étape, vous avez l'impression, de cette épidémie, là? Est-ce qu'on est au début, on est en milieu de parcours, on est en attente du pic, non?
On n'est pas du tout en milieu de parcours, on est vraiment au début.
Okay.
Puis ça va, il va y en avoir, il faut comprendre qu'on va avoir des tests qui vont rentrer de cas il y a un backlog de tests qui vont rentrer. Tout le long du processus, on va changer même nos critères, parce qu'à un moment donné, il faut aller tester là où est le plus de bénéfices comme tel. On va se mettre à tester même des gens à l'hôpital qui n'ont même pas voyagé. Vous savez, en fonction, là, la semaine de relâche, c'était une situation particulière. La semaine de relâche, elle a eu un impact chez nous comme tel. Et là, on a fermé les frontières. Fait que ce ne sera plus le voyage qui va être l'événement le plus important. Ça va être les contacts au Québec avec des gens infectés. Ça va évoluer dans le temps. Mais on est encore au début, là. Puis on est encore au début, mais on se prépare. On est en train de préparer comme si on était en plein pic. Comprenez-vous, là, on est en train de mettre sous tension le système. On a arrêté justement pour ne pas se retrouver dans les situations comme en Italie ou ailleurs où on est obligé de choisir entre des personnes où on manque de respirateurs, etc. Fait qu'on a eu cette chance-là aussi que ça n'a pas commencé chez nous. Et là, maintenant, on vient de fermer certaines barrières. Puis je tiens à vous dire aussi, là, je sais que c'est pas facile, là, pour des gens qui arrivent du sud, puis qui arrivent du soleil, puis qu'ils ne sont pas dans le même mood, qui arrivent ici, là, puis de rester 14 jours à la maison. Mais c'est très important. Parce que tout le long, là, du chemin qui vient de la Floride en auto, là, tout le long, il y a des cas, là, aux États-Unis, là. Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas été touché à un objet qui est contaminé? Je sais que ça a l'air fou, là, mais c'est ça qui fait la maladie. Donc, s'il vous plaît, écoutez ce qui passe dans les points de presse. Il va y avoir des informations techniques qui vont être données différemment aussi. Écoutez ce qui est dit dans les médias. Et je vous remercie, les médias, de répéter ça, d'être innovateurs dans la façon de communiquer les messages, parce qu'on a besoin de la collaboration de tous. Tout le monde est impliqué. Tout le monde peut penser. Regardez moi-même, là, je me lave les mains. Là, j'ai jamais eu les mains aussi lavées comme telles. Et je suis en contact avec presque, même si je suis on me voit beaucoup, et je suis en contact en distance, je ne vois pas ma famille actuellement pour justement ne pas tomber malade. Imaginez-vous si je transmettrais ça au premier ministre, puis on se tient loin l'un de l'autre. On applique ce qu'on vous dit, là. C'est sérieux.
Écoutez, vous savez que hier, il y a eu des rumeurs qui ont circulé voulant qu'on décrète une forme de ce qu'on appelle en anglais un lockdown, là, un isolement complet de l'île de Montréal. Le bureau du premier ministre a rapidement démenti la rumeur. Avez-vous entendu parler de ça hier? Est-ce que ça a fait partie de scénarios qui ont été donc sur la table, mais écartés?
Mais écoutez, c'est des scénarios que j'envisage. Vous savez, il n'y a rien d'exclu. OK? Mm-hmm. Je tiens à vous dire, là, il n'y a rien d'exclu. On va tout faire, le gouvernement va tout faire selon les conseils qu'on va faire puis l'analyse qu'on va faire qui change d'heure en heure. Actuellement, là, on n'est pas dans un lockdown annoncé, mais on voit que l'activité a baissé. Moi, je suis pas dehors, là. Je sais pas si les gens vont au restaurant. Je sais pas, là, ce qui se passe en termes d'application. Je veux qu'on mesure ça. Je me demande est-ce qu'on mesure les mesures qu'on a mises en place. Il semble y avoir, dans certains endroits, des rassemblements encore, et ça, je trouve qu'on va devoir probablement intervenir. Mais on n'est pas dans un lockdown. Mais il n'est pas dit qu'on mettrait, entre guillemets, en quarantaine ou en ce qu'on a diminution de gens, une ville, si jamais la situation est isolée à cette ville-là. Il faut faire l'analyse. Actuellement, on commence à avoir de la circulation, mais pas intensive. Ce qu'on appelle des cas sont générés. C'est une affaire complexe. Je ne veux pas faire le cours ici ce matin, là. Mais donc, tout est possible, mais on n'en est pas là actuellement. Puis soyez assurés que quand on va le faire, on va le faire, puis on va expliquer les raisons. Mais j'invite les Québécois qui sont dans une région où il y a du coronavirus, mais partout les Québécois, c'est pas le temps de changer de ville ou de région actuellement. Si c'est pas essentiel.
Okay.
Moi, je pense que puis ça va être, on va discuter aussi avec notre frontière à l'Ontario. Là, on va avoir des discussions là. Je ne veux pas annoncer rien, là, mais je pense qu'en termes de principe, là, c'est que c'est pas le temps de partir d'une place pour aller à l'autre. C'est comme ça que le virus est rentré au Québec à travers des voyages qui sont allés en Italie avec la semaine de relâche, etc. Puis les gens ne savaient pas qu'ils étaient malades ou qu'ils allaient devenir malades.
Je vais vous poser deux ou trois questions rapides, mais très concrètes, puis ce sont des questions des auditeurs, des auditrices. Vous répétez avec raison l'importance de garder une distance avec les autres, un mètre, deux mètres. Qu'est-ce que vous dites à des gens qui œuvrent dans le domaine de la coiffure? Il y a des coiffeuses qui vous écoutent ce matin puis qui se demandent « qu'est-ce que je fais? Je suis à proximité de mes clients, mes clientes. » Des gens qui sont dans, je sais pas, dans le commerce de détail ou ont des contacts, même s'ils essaient de garder une distance, pas toujours facile. Des gens, là, que par définition, leur travail les amène près des clients. Qu'est-ce qu'elle doit faire?
Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui m'en a parlé, ce qu'il a fait. Lui coiffe, disons, dans un chez lui. Là, où, et ce qu'il fait, c'est qu'il appelle tous ses patients pour demander s'ils sont venus de voyage les derniers 14 jours. S'ils sont venus de voyage, ils ne sont pas supposés de sortir, donc il annule les rendez-vous, puis disons, on se reverra un peu plus tard. Il leur demande s'ils ont des symptômes. Okay? S'ils ont des symptômes, ils viennent pas. Et puis après ça, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il retarde les rendez-vous, il les décale un après l'autre. Et il s'organise pour pas que personne se croise de façon importante. Puis à chaque fois qu'il termine un client, il désinfecte un peu. C'est sûr que selon le modèle de votre salon, là, vous pourriez avoir des gens éloignés dans les chaises. C'est ça qu'il faut faire. Puis ils font attention, là, l'étiquette respiratoire. Puis si la personne ne tousse pas, n'éternue pas, puis qu'on se lave les mains après, c'est bien important, nettoyer l'environnement, puis qu'on se lave les mains après, on peut continuer à offrir ce service-là. Et c'est ça le principe. Il faut être ingénieux dans la façon de faire.
Mais exemple, sur un chantier de construction, j'ai des travailleurs qui me disent, on s'échange les outils, c'est comme ça qu'on travaille, on est souvent dans des lieux clos, on ne peut pas travailler autrement qu'être un près de l'autre. Je peux pas. Autrement dit, la nature du travail et l'endroit du travail font que je me place en contradiction avec les recommandations, les directives du gouvernement.
Je comprends. Premièrement, là, aucune personne symptomatique, s'il vous plaît, aucune personne qui revient hyper bronzée du sud puis qui dit qu'il n'a pas voyagé. Là, c'est l'autre affaire que je te dis aussi. Faut pas mentir. Si vous avez voyagé puis vous avez fait quelque chose de pas correct, là, et que vous avez des symptômes, là. Allez pas à l'urgence puis pour essayer de vous faire évaluer pour le COVID-19. Le fait d'avoir voyagé, c'est un élément très important. Protéger les autres. On peut tous ne pas savoir. On n'ira pas chercher des coupables actuellement, là, mais je trouve ça important que vous dites la vérité. Donc, dans la construction, il y a beaucoup d'événements qui sont à l'extérieur. Les instruments, le matin, on arrive, on peut désinfecter. Il y a des désinfectants qui s'échouent pour ça. On l'utilise. Si on le partage avec d'autres, on le désinfecte. Si on porte des gants, on peut porter des gants, mais quand on les enlève, il ne faut pas se contaminer, il faut se laver les mains. Essayez de garder une distance. C'est sûr que si vous êtes deux collés, là, en dessous d'un. Moi, je donne un exemple, là, en dessous d'un comptoir, puis vous êtes collés, là, bon, ben, peut-être que cette tâche-là, vous pouvez la faire différemment ou la reporter. Mais je ne sais pas si vous comprenez, il y a vraiment des services essentiels, puis il faut être ingénieux dans cette perspective-là. Puis je pense qu'il faut aussi que les employeurs soient compréhensifs pour permettre d'adapter le travail sans l'arrêter complètement, mais de l'adapter pour respecter ses consignes.
OK. Je veux vous parler absolument ce matin de la recherche, c'est-à-dire autant pour des médicaments que pour des vaccins. Et on sait que depuis quelques jours, on parle beaucoup de ce traitement-là qui est utilisé pour l'arthrite, enfin, puis le paludisme également. Traitement avec de la chloroquine. Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que ça marche? Le président Trump a l'air de dire que c'est extraordinaire puis qu'on est à la veille d'en faire la distribution.
Ben, écoutez, notre Institut national d'excellence à la santé nous a fait un avis. ça va être utilisé, mais dans certaines conditions, ce n'est pas le produit miracle qu'on pense. Okay? C'est les dernières informations que j'ai. J'ai pas eu les discussions directement là, au cours des derniers jours, mais c'est l'information qu'on m'a transmise. On en a, on va en avoir en stock, on va l'utiliser, mais selon les meilleures indications. Mais je pense que la solution est véritablement dans la recherche pour aller chercher d'autres antiviraux plus spécifiques. Il y en a actuellement des études cliniques qui se font. Je veux pas que les gens pensent qu'on va utiliser la population québécoise comme des cobayes. C'est pour ça qu'on essaie de faire très clairement l'analyse de ce qui existe. Par contre, pour certaines personnes qui arrêtent des besoins, là, qui vont mourir, là, on a des stocks. Il y a des protocoles très clairs qui vont être transmis aux cliniciens sur la base des données probantes. Et ces protocoles-là sont suivis par nos experts ici. Ils vont être ajustés selon ce que la littérature va nous apporter comme élément. Puis on a des gens qui font de la recherche. Là, je ne veux pas nommer personne pour ne pas oublier personne. Il y a plein de gens qui sont actuellement en train de s'activer pour un antiviraux. Puis bien entendu, aussi, un antiviral, je dirais bien entendu un vaccin éventuellement, mais le vaccin, on ne l'aura pas demain matin.
Docteur Arruda, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin. Puis prenez du temps pour vous parce qu'on a besoin de vous, Docteur Arruda.
Oui, c'est ce qu'on m'a déjà dit, là. Je le fais. J'ai mobilisé toutes les équipes. Puis je tiens à vous dire, je ne suis pas le seul là-dedans. On est toute une armée, je vous le dis. C'est comme ça que j'ai appelé mes gens. Vous êtes mon armée et parmi l'armée, collaborez avec eux, collaborez avec le gouvernement. Pensez-y, faites votre devoir de citoyen, puis bravo à mes beaux pigeons voyageurs que vous êtes dans les médias. Heureusement, vous voyagez plus vite maintenant que dans le temps. Le message va rapidement avec les médias sociaux. Au revoir.
On le souhaite et on vous trouve la meilleure recette de tartelettes portugaises et un peu d'opéra pour compléter votre journée. Bon week-end à vous.
Oui, et je sens que M. Negano, j'ai entendu qu'il va y avoir des concerts virtuels de l'OSM avec Kent Negano. Je suis sûr que ça va m'aider à mieux rester à l'intérieur puis à penser aux belles choses que la vie nous rapportera après qu'on aura vaincu cette éclosion. Épidémie.
Au revoir. Toujours un plaisir de vous parler. Le docteur Horacio Arruda, qui est le directeur national de la santé publique. Alors, on sait ce qu'on a à faire. Hein? Je pense que le message est clair. Il n'est pas compliqué. Je comprends que des fois, c'est dur à, je dirais, matérialiser dans certains milieux. Mais, tu sais, le principe est simple. On se lave les mains, on garde une distance, on exclut les déplacements inutiles, on va qu'à l'essentiel. Puis on essaie de, je dirais, communiquer entre nous de façon virtuelle, trouver des moyens, passer à travers ça, puis d'avoir une pensée pour les gens qui travaillent fort dans le réseau de la santé et ailleurs, là, pour justement s'assurer que ça se passe correctement. 7h42.